Donc, bon matin à vous. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Peut-être que c'est la première fois que vous êtes ici. Vous vous joignez à nous maintenant durant une série de messages. Donc, on arrive au troisième message sur le livre d'Habacuc. Donc, le livre d'Habacuc, c'est un petit prophète de l'Ancien Testament. Et ce matin, j'ai prévu une petite révision pour nous avant qu'on entre dans le dernier chapitre d'Habacuc. Donc, avant d'entrer directement dans le livre d'Habacuc, prenons une minute ensemble pour déposer nos cœurs devant Dieu, pour les rendre réceptifs à sa parole. Prions encore, encore et encore pour laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Éternel mon Dieu, ce matin, on a un privilège. Le privilège qu'on a, c'est d'être tes enfants, de te connaître, d'avoir accès à ta parole, de pouvoir se réunir ensemble ce matin. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint puisse faire son œuvre en nous, afin que nous soyons, Seigneur, transformés par ta parole. Nous ne voulons pas, Père, être des auditeurs oublieux, mais plutôt nous voulons mettre en pratique ta parole et être transformés par elle. Donc, viens y agir en nous, je te prie, viens briser les barrières qui nous empêchent de recevoir ta parole. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, la série dans laquelle vous entrez ce matin s'appelle « Parle, attends, regarde ». Donc, trois postures intérieures que nous pouvons voir dans le livre d'Habacuc qui peuvent nous aider à faire face à l'injustice et à la souffrance collective. Évidemment, une série de trois messages sur Habacuc ne vous dira pas tout ce que le livre d'Habacuc peut vous apprendre. Il y a beaucoup, c'est riche dans un texte comme ça, mais on y va en trois prédications pour nous permettre de voir trois thèmes que nous voyons dans ce livre-là. Donc, nous avons déjà vu les dimanches précédents les deux premières postures. Donc, nous avons vu que devant l'injustice, l'enfant de Dieu parle, il attend, et nous allons voir une ligne que nous avons déjà vue par l'enfant de Dieu regarde. Allons voir les grandes lignes que nous avons déjà vues par le passé. Si jamais vous voulez vous rattraper, les prédications sont accessibles sur le site de l'Église avec les notes aussi, ou le PowerPoint plutôt. À noter qu'on a un petit problème en ce moment avec notre système d'enregistrement, donc parfois ça coupe un petit peu, donc on perd des petits morceaux, mais grosso modo, on est capable quand même de bien entendre les grandes lignes du message dans la majorité. Mais on a des bons techniciens qui sont en train de résoudre ce problème-là. Donc, on a vu parler. Parler, c'est exprimer à Dieu. C'est prendre le temps d'exprimer à Dieu en détail l'offense et ses répercussions. C'est ce qu'on voit un peu Habacuc faire dans le premier chapitre. Hein? Il ouvre son cœur à Dieu de manière complète et il ne se censure pas. Il partage avec Dieu qu'est-ce qu'il voit qui ne fonctionne pas. On a vu que c'est dialoguer avec Dieu par rapport à nos incompréhensions, par rapport à nos émotions. Et devant l'injustice, ça ne peut pas faire autrement que nous confronter un peu et nous amener à nous questionner. Pourquoi est-ce que Dieu permet ce genre de choses-là? Et ce genre de discussion-là, on peut l'avoir avec Dieu directement. On voit aussi dans le livre d'Habacuc que parler, c'est appeler Dieu au secours, en reconnaissant qu'en fait, il y a juste Dieu qui peut vraiment répondre à nos questions qu'on a devant l'injustice et devant toutes sortes d'incompréhensions que ça peut engendrer. Donc ça, c'était notre premier message. Dans le deuxième message, nous avons vu attendre. Donc c'est une autre posture qu'on voit Habacuc prendre. Ça, on l'a vu quand on a regardé le deuxième chapitre. Donc on a vu qu'attendre, c'est choisir d'accepter que la patience de Dieu fait partie de son plan pour l'humanité. Attendre, c'est aussi avoir l'opportunité d'adopter la perspective de Dieu par rapport aux méchants et d'intercéder pour eux. Alors, parce qu'on connaît le cœur de Dieu pour l'humanité, son désir que personne ne se perde, mais que tous puissent venir à le connaître. Et finalement, nous avons vu que comme chrétiens, lorsqu'on attend, on a le privilège de demeurer dans la présence du Dieu qui règne encore, qui est encore tout-puissant, même si on ne le comprend pas. Où on ne le voit pas. On a l'impression de ne pas le voir, je devrais dire. Donc, aujourd'hui, le dernier message et la dernière posture qu'on peut voir dans le livre d'Habacuc, regarde. Donc, la capacité de voir de manière inspirée par la foi, de voir au-delà des circonstances. Donc, on va voir un peu comment Habacuc fait ça. Donc, on va faire un petit peu comme la semaine dernière. On va lire de manière graduelle le texte. Donc, je vais faire ressortir au fur et à mesure des points qu'on voit dans le livre d'Habacuc. Évidemment, comme je vous dis, le livre d'Habacuc, il est riche. On ne va pas s'attarder à toutes les métaphores qu'Habacuc utilise. Habacuc est également très poétique dans son langage. Et donc, il y aurait beaucoup plus de choses qu'on pourrait retirer du texte d'Habacuc, mais on va quand même regarder les grandes lignes ce matin pour le but de ce message. Donc, commençons avec le chapitre 3. Voici une prière du prophète Habacuc. Il l'a chantée comme un chant de deuil. « Seigneur, j'ai entendu parler de tes grandes actions. Seigneur, je tremble devant elles. Pendant notre vie, montre des actions semblables. Pendant notre vie, fais-les connaître. Même si tu es en colère, souviens-toi de ta tendresse. » Donc, Habacuc, il a déjà parlé à Dieu. Il lui a ouvert son cœur, il lui a présenté ses incompréhensions. Il s'est déjà mis dans une posture d'attente. Il a dit, « Ah, moi, je vais me tenir sur le mur. Je vais attendre pour voir qu'est-ce que Dieu va me dire. » Mais Habacuc veut aller plus loin avec Dieu. Habacuc veut plus que le souvenir de qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé. Il veut plus que l'expérience des autres. Donc, il dit clairement, moi, je le sais qu'est-ce que Dieu a été capable de faire dans le passé. Je le sais, là, je les ai reçus, tous ces enseignements-là. C'est dans ma tête, c'est dans mon cœur. Mais je veux pas juste que ce soit dans mes pensées, dans ma connaissance. Je veux pas juste que ce soit un beau souvenir à chérir dans mon cœur. Je veux que ça fasse partie de ma réalité. Je veux le voir ça de mes propres yeux, dans ma situation, dans la situation d'injustice à laquelle je suis confrontée. Donc, Habacuc nous présente un modèle de quelqu'un qui veut aller plus loin. On pourrait dire, bon, Habacuc, c'est un prophète, c'est quand même pas une petite chose, être un prophète de Dieu. Peut-être qu'il aurait pu dire, bon, je vais m'arrêter là, j'ai déjà reçu des révélations de Dieu. Mais non, Habacuc veut aller plus loin. Et ça, c'est un appel pour nous comme chrétiens aussi. C'est un appel de ne pas s'arrêter dans le processus de notre marche avec Dieu, de nous-mêmes vouloir aller plus loin. Vous savez, on a vu ces trois postures-là qu'Habacuc a. Et ce matin, je veux vous rappeler que ces postures-là, elles sont un petit peu en synergie. Elles interagissent ensemble. Donc, oui, Habacuc a débuté en parlant à Dieu. Mais il s'est mis à attendre. Lorsqu'il attendait, il n'a pas arrêté de parler. Et alors qu'il regarde, il ne va pas arrêter d'attendre et il ne va pas arrêter de parler. Donc, il pratique toutes ces choses-là en même temps. Et c'est un peu notre défi aussi comme enfants de Dieu, de ne pas avoir l'impression qu'on a gradué d'une certaine étape dans notre marche avec Dieu et qu'on n'a plus besoin de ces choses-là. Non, c'est un processus qui est continu. C'est une attitude, quand je parle d'une posture intérieure, hein, c'est une attitude, c'est une manière d'être qui va nous permettre d'aller plus loin avec Dieu. Et c'est notre appel aussi ce matin, c'est d'aller plus loin avec lui. De ne pas se contenter des choses du passé, mais d'avoir vraiment une expérience continuelle avec Dieu. Hein, quand on annonce l'Évangile, on dit aux gens, « Est-ce que tu connais le Seigneur? » J'aimerais te parler de lui. Est-ce que tu es né de nouveau? Et il y a le danger de s'arrêter puis de dire, ben, non, mais moi, je connais le Seigneur. Moi, je suis déjà né de nouveau. Un petit peu comme j'ai déjà eu une expérience avec Dieu, puis j'ai plus besoin d'expérience avec Dieu maintenant. J'ai atteint un niveau où j'ai pas besoin d'aller autant en profondeur. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Il nous appelle à une intimité qui est toujours grandissante avec lui, à être dans cette posture-là où on veut toujours aller plus loin. Donc, continuons un peu avec Habacuc ici. Donc, le texte continue comme ceci. Dieu arrive de Téman. Le Dieu saint vient des montagnes de Paran. Sa grandeur couvre le ciel et la terre et remplie de sa louange. Il brille comme la lumière. Des rayons sortent de sa main là où se cache sa puissance. Une épidémie de peste avance devant lui et la fièvre brûlante marche derrière lui. Quand il s'arrête, la terre tremble. Quand il regarde les peuples, ceux-ci ont peur de lui. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui, les sentiers d'autrefois. Donc ici, on voit des images du Dieu d'autrefois. Ce Dieu-là qui est familier aux Israélites, hein? Ce Dieu-là qui a fait route avec eux hors d'Égypte. Quand il nous fait des références là, à cette montagne-là, à Téman aussi, c'est le chemin du sud à travers lequel les Israélites ont passé lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Donc, Habacuc se souvient que c'est de cette direction-là que le peuple d'Israël est venu lorsqu'il est sorti d'Égypte. Et ce même Dieu-là, il réalise que dans ces circonstances, hein, il peut encore changer les choses. Ces collines-là qui sont bien solides, c'est l'image qu'il nous donne, hein, ils peuvent encore s'abaisser devant Dieu. Donc, beaucoup d'images sur la création, c'est très poétique, mais la nature, ça nous amène à considérer la grandeur de Dieu. Et c'est une image qui nous aide à comprendre, hein, des montagnes, ça ne se déplace pas comme on voudrait, hein? Des chemins ne se feraient pas comme on voudrait, mais Dieu est assez puissant. C'est de ce genre de puissance-là qu'il parle. Il dit « Le ciel et la terre sont remplis de sa louange et de sa grandeur. » Et ça, ça bouleverse. Ça bouleverse. On a un Dieu qui était un grand Dieu pour le peuple d'Égypte. Et ce grand, à travers, par exemple, la délivrance qu'il a fait en Égypte. Mais on a encore ce grand Dieu-là aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux aussi dans ce sens que Habacuc a comme nous décrit par son poème, sa prière, une vision qui est quand même peut-être un peu difficile pour nous à saisir, hein, parce que c'est son expérience personnelle à lui. On ne sait pas trop exactement comment il l'a vu, à quoi ça ressemblait, mais on comprend qu'est-ce qu'il essaie de nous communiquer à travers ces images-là. Donc, un Dieu puissant comme le Dieu d'autrefois qui est en mesure de voir. Il continue en disant « Je vois les gens couchant se courber sous le malheur dans leurs tentes et les gens de Madian trembler de peur dans leurs abris. Est-ce les fleuves, Seigneur? Est-ce les fleuves qui te mettent en colère? Est-ce contre la mer que ta fureur se déchaîne? Tu montes sur tes chevaux et tes chars te conduisent à la victoire. Tu prépares ton arc et ces flèches sont les serments que tu as fait dans ta colère. La terre s'ouvre et des torrents jaillissent. » Habacuc découvre, ou redécouvre peut-être, dans cette expérience-là avec Dieu, le Dieu qui est un Dieu puissant. Il nous décrit Dieu comme étant un guerrier qui combat pour son peuple, un Dieu tout-puissant sur la création, un Dieu fidèle à sa parole. Quand vous pensez à cette image-là, il dit « la terre s'ouvre et des torrents se déversent ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au pied d'une chute. Avez-vous déjà vu ça, les chutes du Niagara? Ou peut-être ailleurs, la belle chute qu'on voit là, c'est au Zimbabwe. C'est très beau, hein? On voit une image, c'est une chose, mais faire l'expérience d'être devant une chute comme ça, c'est pas la même chose, hein? Faire l'expérience de voir comment les chutes du Niagara sont, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une photo. Et Habacuc va comparer l'expérience de la puissance de Dieu à ce genre d'image-là, ou redécouvre. Donc, Habacuc découvre ou redécouvre la puissance de son Dieu. Il dira ceci, « Les montagnes te voient et elles tremblent de peur. » L'eau tombe avec violence, le grand océan rugit, il lance ses vagues jusqu'au ciel. Devant la lumière de tes flèches qui volent, devant les éclairs de ta lance, le soleil et la lune restent sans bouger. Rempli de colère, tu avances sur la terre, furieux, tu écrases les autres peuples. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver le roi que tu as consacré. Littéralement ici, pour sauver ton oint, celui que tu as oint. Tu renverses le chef du clan des gens mauvais. Tu détruis complètement ses alliés. Et là, c'est intéressant comment, quand on regarde un petit peu dans l'hébreu, on pourrait aussi traduire « tu écrases la tête du mauvais ou du méchant, du groupe de méchants ». Intéressant quand même comme image. Continuons ici encore. Il dira, « Tu perces la tête des chefs ennemis avec leur propre lance, avec leur propre flèche, pardon. Ils arrivent en courant comme une tornade pour chasser de tous côtés, pour nous chasser de tous côtés. Ils poussent des cris de joie comme s'ils allaient dévorer un pauvre en se cachant dans leur abri. Tu avances dans la mer avec tes chevaux au milieu des vagues puissantes. » Donc, Habacuc nous présente un Dieu qui est victorieux, un Dieu qui marche sur l'eau déchaîné avec ses chars, qui arrive pour faire justice. Un Dieu qui est capable d'agir au milieu de circonstances périlleuses, dangereuses. Un Dieu qui est capable de renverser le plan de l'ennemi, le retourner contre lui. Moi, ça m'a quelque chose qui m'a frappé alors que j'étudiais ce texte-là. Ce Dieu victorieux-là qui avance sur la mer déchaînée, est-ce que ça vous rappelle une histoire du Nouveau Testament, ça? Quelqu'un qui marche sur l'eau, les disciples dans une barque, je vous donne des indices, là. Oui, hein? Jésus marchait sur l'eau au milieu de la tempête. Il pensait que c'était un fantôme, il le voit arriver, hein? Et puis, tout d'un coup, Jésus aussi nous montre à travers les Écritures qu'il a le pouvoir de calmer la tempête. Et donc, c'est ça qui est un peu qui présente chaîné. Dieu est victorieux, même si le chaos est tout autour, là. Dieu est capable d'agir au milieu de sa création, tout comme il est capable d'agir à travers les situations d'injustice, de chaos social. C'est ce même Dieu-là qu'on sert ce matin. Dieu est capable d'écraser le plan de l'ennemi. Habacuc continuera en disant ceci, « J'entends tout ce bruit et je suis bouleversé. Ma bouche tremble de peur et mon corps, devient tout faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. En silence, j'attends le jour du malheur, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Les figuiers ne fleurissent plus. Les vignes ne donnent plus de raisins. Les oliviers ne portent plus d'olives. Les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. » La puissance de la révélation de Dieu dans notre vie, hein, c'est ce qu'on voit dans l'expérience d'Habacuc. Il a reçu de Dieu quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? Même son corps en est bouleversé. C'est à ce point-là qu'il s'est laissé saisir par la parole de Dieu, de l'intervention de Dieu. Quelque chose qui vient, je dis, entre parenthèses ou entre guillemets, visible de l'intervention de Dieu. Quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent. Quand Dieu nous parle, ça ne peut pas faire en sorte Ça ne peut pas faire autrement que de nous bouleverser intérieurement. Et nous voulons, comme chrétiens, nous laisser bouleverser par Dieu. Parfois, Dieu a besoin de nous reprendre. Parfois, il veut nous amener plus loin avec lui. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on lui donne accès, pas juste à nos pensées, on lui donne accès à nos émotions, on lui donne accès à tous les domaines de notre vie. Et on veut se laisser transformer, toucher par Dieu, comme Habacuc l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des expériences comme ça tous les jours, là. Mais si on n'a jamais eu d'expérience comme ça après notre nouvelle naissance, il faut se poser des questions. Moi, je vous dis un secret ici, là. Quand ça fait quelques semaines que je n'ai pas eu de moment où Dieu vraiment est venu me parler, toucher mon cœur, je commence à m'inquiéter. Je dis, « OK, Seigneur, est-ce que j'ai... mis un peu un couvert de religiosité où j'apprends plein de choses avec ma tête, mais où je ne laisse pas ces choses-là descendre dans mon cœur. Seigneur, crée un cœur bien disposé à se laisser toucher par toi, hein, à se laisser diriger par toi. Et Dieu veut continuer encore à nous parler, à nous transformer. On veut avoir ces expériences-là, oui, où on comprend des choses avec notre tête, mais on veut avoir des expériences aussi où notre cœur est changé, où notre cœur est transformé, notre attitude, elle est changée par Dieu. Habacuc, j'y ai touché un peu plus tôt, mais il se laisse toucher par Dieu et il n'a pas gradué parce qu'il est prophète de Dieu, parce que Dieu lui a déjà parlé dans le chapitre 1 ou dans le chapitre 2. Il n'a pas gradué en disant « ben moi, je n'ai plus rien à apprendre ». Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'assister à une conversation un petit peu loufoque, un peu drôle. Donc, il y avait un jeune homme qui parlait avec une dame plus âgée. Et il était en train de vouloir lui partager quelque chose qu'il avait appris dans un de ses cours à l'université, quelque chose qui lui avait été enseigné par un homme qui faisait de la relation d'aide depuis quelques décennies. Et il partage ces choses-là à la dame qui vit visiblement un problème de ce même niveau-là, de ce qu'il lui voulait lui parler. Et la dame lui dit, « À mon âge, tu m'apprendras pas rien, mon garçon. » Et moi, je me dis parfois en riant, ben, elle avait plus besoin d'apprendre. Et moi, je me dis parfois en riant, ben, c'est vrai, peut-être qu'elle a 40 ans de plus, elle avait plus que 40 ans d'expérience que lui, mais peut-être que ça faisait 40 ans que ça ne fonctionnait pas aussi. Hein, quand on est dans une attitude d'autosuffisance, dans une attitude où on ne se laisse plus enseigner par la parole de Dieu, par son Saint-Esprit, par les frères et sœurs autour de nous, on peut passer quelques décennies, quelques années à boiter. Et ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Dieu veut continuellement nous transformer. Il veut qu'on demeure dans cette position-là d'humilité qui se laisse enseigner. Ce n'est pas un âge qui peut nous exclure de ça. Ce n'est pas un titre. Hein, on ne peut pas dire, bon, ben moi, je suis pasteur, je n'ai plus besoin de me laisser enseigner. Ou moi, j'ai une maîtrise, je n'ai plus besoin de me laisser enseigner. Non, devant le Seigneur, on est tous en cheminement. On est tous sur la route de la croissance spirituelle. Alors, je vous pose la question, depuis quand ou à quand remonte votre dernière expérience bouleversante? Dernière fois. Et ça, c'est peut-être une question pour... Bonne question, n'est-ce pas? Quand est-ce que, Seigneur, tu m'as parlé pour la dernière fois? Et ça, c'est peut-être une question pour ramener à la maison avec vous. Seigneur, parle-moi à nouveau. J'ai, comme Habacuc a dit, hein, j'ai entendu parler de ce que tu as fait par le passé, mais je veux le voir dans ma vie. Seigneur, je veux le voir à nouveau. Et Habacuc continue en disant ceci, « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. On chef des chœurs avec des instruments à cordes. » Donc, c'était un passage ici qui était pour être chanté. La joie en Dieu plutôt que dans les circonstances. Il s'est passé quelque chose dans Habacuc à travers tout ce processus-là, alors qu'il a adopté ces postures-là, alors qu'il a parlé à Dieu, alors qu'il s'est attendu à Dieu, alors qu'il a laissé Dieu l'aider à regarder, à voir les choses autrement. Rien n'a changé à l'extérieur. Il n'y a toujours pas de vigne qui produit des fruits. Il n'y a toujours pas de bœuf dans l'enclos. Mais tout a changé à l'intérieur d'Habacuc. Habacuc n'est plus le même. Il est transformé par la révélation de Dieu dans sa vie. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire la même chose ce matin. Peut-être que vous êtes bouleversés par des situations d'injustice, par des situations qui démontrent la méchanceté dans le monde où on vit, l'action du péché. Dieu peut faire une œuvre en vous. Dieu peut faire une œuvre en vous, même si l'œuvre autour de vous n'est pas encore accompli. Même si les gens, peut-être, qui vous font du mal n'ont pas changé, Dieu peut vous changer. Dieu peut vous bénir. Dieu peut vous transformer. Et toutes les raisons étaient bonnes pour abandonner la joie. Et pourtant, l'attitude d'Habacuc a changé. Maintenant, il faut se remettre dans le contexte un peu. Hein? Quand il n'y a pas d'animaux dans l'enclos, quand les arbres ne produisent pas, Habacuc, là, il ne veut pas se dire « je vais aller au dépanneur, l'acheter, je vais aller au Costco, je vais faire des réserves ». Ce n'est pas comme ça que ça marchait, là. C'est vraiment pas comme ça. Si l'ennemi a pris mes animaux, s'il a coupé mes arbres, j'ai faim. J'ai peur pour l'avenir de moi, peut-être de mon épouse, de mes enfants. C'est pas tout à fait le même contexte qu'aujourd'hui. Mais malgré ça, malgré cette grande foi-là, Habacuc était dans la joie. Ça, c'est un miracle de la foi, là. On pense souvent au miracle comme la mer rouge qui s'ouvre, mais ce changement-là drastique à l'intérieur, le miracle de la foi. C'est en soi une œuvre puissante du Saint-Esprit. C'est en soi le miracle de la foi. Et Habacuc découvre la sécurité de la sainteté. On l'a vu dans les autres chapitres, hein, quand Habacuc parle du méchant, il dit « c'est un aigle là, qui ramasse sa proie au vol, c'est un loup là, comme le soir qui se tient là, pour attraper sa proie, hein, c'est un félin furieux là, qui vient, c'est une tornade. » Il dit « moi, Seigneur, te fais de moi une biche. » Une biche, en théorie, c'est une proie, c'est pas un prédateur. Et parfois, on peut se sentir comme ça quand on choisit de marcher dans la sainteté, dans l'intégrité, quand on choisit de ne pas rendre le mal pour le mal, on peut se sentir vulnérable. On peut se dire, coudon, moi, je suis une proie, hein? Je vais faire profiter de moi. Mais Dieu lui montre ceci. Je t'ai donné une habileté à fuir le danger, une protection. Hein, cette biche-là sur les hauteurs. Qui est-ce qui était sur les hauteurs dans le chapitre 2? C'était le méchant comme un aigle qui fait son nid, qui pense qu'il est en sécurité. Mais le Seigneur dit à Habacuc, non, moi j'ai fait de toi une biche sur les hauteurs. C'est moi qui te place en sécurité, Habacuc. Je t'ai donné une capacité à avancer là où beaucoup d'autres seraient paralysés. Là, je m'excuse, il y a un petit ennui avec le PowerPoint, il y a des petits mots qui coupent, mais ils sont vraiment là. La biche qui court sur les hauteurs. Là, on la voit qui court dans l'herbe, là. Mais imaginez-la sur des montagnes là, bien escarpées, là, en train de se tenir, de bondir, de courir. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Je n'ai pas besoin moi-même d'adopter les stratégies des gens qui commettent l'injustice. Je n'ai pas besoin de tomber dans le péché, d'écouter ce que l'ennemi me suggère de faire. Dieu a trouvé une opportunité pour moi de marcher dans un contexte périlleux, un contexte dangereux, en continuant à faire sa volonté. Amen. Amen. J'ai peut-être perdu ma naïveté devant Dieu. Alors qu'Habacuc regarde, donc, il voit Dieu venir à son secours. Il voit Dieu venir à son secours avec la même capacité qu'il a démontré d'agir autrefois. Il le voit venir avec puissance. Il le voit venir avec une victoire assurée. Donc, on a vu hein, dans le chapitre précédent, il découvrait un peu la vision de Dieu du méchant. Mais maintenant, il découvre Dieu lui-même, le caractère de Dieu, la vision de Dieu, la capacité de Dieu à agir. Et c'est là qu'il va plus loin avec Dieu. Habacuc laisse Dieu toucher son âme en profondeur. Hein. Il le fait en ayant une expérience qui est intimement personnelle et une expérience actuelle, nouvelle. Hein. Il se laisse renouveler par Dieu dans cette circonstance-là précise. Alors qu'il regarde, hein, il reçoit les bienfaits de sa marche avec Dieu. Dieu le bénit, hein? Il lui donne la joie en toutes circonstances, il lui donne la capacité à persévérer, il lui donne la sécurité. Et il lui donne la paix d'une vie juste. La paix de ton âme, elle n'a pas de prix. D'avoir une conscience pure devant Dieu. Wow! On l'a vu dans la prédication de la semaine dernière, hein? Le méchant accumule une dette spirituellement devant Dieu. Hein? Il accumule une dette pour le jugement, mais l'enfant de Dieu goûte à la paix de ne pas s'accumuler une dette là, devant Dieu. Au contraire, il vit avec un cœur tranquille, le cœur tranquille qui vient de pratiquer la justice. Donc, cette semaine, c'est notre défi, un nouveau défi cette semaine, le défi de regarder, de contempler le caractère de Dieu et son impact sur mes circonstances. Dieu, aide-moi à renouveler ma perception de ton caractère. Aide-moi à voir, à imaginer comment est-ce que tu peux agir dans cette situation-là. Donne-moi la vision de la foi. Ce n'est pas naturel. Dans nos circonstances, on peut avoir tendance à être découragé, à moins que vous ayez un don spécial au niveau de la foi. Généralement, même quand on a un don de la foi, on peut venir à des moments où on est un petit peu découragé. Hein? Donc, Dieu, aide-moi à contempler ton caractère. Aide-moi à me laisser bouleverser, à me laisser transformer. Aide-moi à regarder ton œuvre en moi aussi, à avoir cette introspection-là, de dire, Seigneur, je veux te voir agir dans mon cœur. pas juste dans mes circonstances. Je veux te voir agir, je veux te sentir agir. Aide-moi, Seigneur, à m'examiner moi-même. Sonde mon cœur. Aide-moi peut-être à porter attention à comment peut-être un frère, une sœur me reflète quelque chose qui a besoin de changer en moi. À ne pas me fermer, à me laisser transformer par ton œuvre en moi. Aide-moi à voir l'identité que tu m'as donnée et la sécurité qui en découle. Aide-moi à trouver ma sécurité en qui tu es et à trouver aussi une sécurité, une joie qui découle de ce que tu m'appelles à être comme enfant de Dieu. Donc, cette semaine, regarde Dieu faire son œuvre en toi. Prends le temps là, de regarder, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi cette semaine? Comment tu veux me parler? Qu'est-ce que tu es en train peut-être déjà de faire en moi? Je regardais une petite image, je vais utiliser le mot « mime ». Peut-être qu'il y en a qui comprennent pas de quoi je veux parler en ce moment. Peut-être si vous êtes plus jeune comme moi, vous comprenez cet exemple-là. Mais un mime, dans le fond, là, sur les réseaux sociaux, c'est comme une image et en dessous, il y a une phrase. Donc, l'image vient renforcer un petit peu la phrase. Et là, je vais changer parce que c'était un petit peu vulgaire, là, mais l'idée était quand même intéressante. Tu disais, si tu es un pas d'allure... Si tu as rencontré plein de gens qui n'ont pas d'allure dans ta semaine, si tu as rencontré une personne... Je vais finir par y arriver. C'est parce que j'essaie d'éviter le choix de mots qui a été fait pour cette petite illustration-là. C'était quand même comique, mais je veux le rephraser bien. Donc, si tu as rencontré une personne qui n'a pas d'allure dans ta semaine, donc une personne de travers, tu as rencontré une personne de travers dans ta semaine. Si tu as rencontré plein de monde qui n'ont pas d'allure dans la semaine, c'est toi qui n'as pas d'allure. Donc, parfois, il faut accepter de regarder quelle œuvre Dieu est en train de faire. Que je suis arrogante, circonstance. Si plusieurs personnes me reflètent que je suis arrogante, peut-être que je suis comme ci ou comme ça, peut-être qu'il faut que je le présente à Dieu. C'est peut-être pas toutes les autres personnes qui ont tort. Peut-être que Dieu veut me montrer quelque chose en moi. Donc, la critique, c'est un petit peu comme ça. On la prend et on l'adresse avec Dieu. « Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça. » Et peut-être que le Seigneur va nous dire, « Ben non, c'est cette personne-là, peut-être que sa perception est erronée. » Mais souvent, quand il y a plusieurs personnes dans une même perception, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer en moi, que j'ai besoin de regarder comment Dieu m'interpelle à le laisser agir en moi. Donc, frères et sœurs, devant l'injustice, on a un choix. On a une opportunité, une expérience, un processus vers la maturité. Si ce matin, vous me dites « Fafa, bébé, lala », ça, c'est quelque chose qu'on disait quand on était enfant, là, qui veut dire « c'est vraiment facile, même les bébés arrivent à le faire », bien, probablement que vous ne comprenez pas. Probablement que vous n'y allez pas en profondeur, parce que ce processus-là, il n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'ouvrir son cœur à Dieu à 100% et de choisir d'attendre qu'il nous parle. Ce n'est pas facile de contempler son caractère toujours et de le laisser nous transformer. Ces choses-là, ça demande de l'espace. J'ai besoin de créer ces espaces-là dans ma vie. Si je me dis, je vais ouvrir ma Bible, je vais prendre un petit 5 minutes pour la lire, là, pour que Dieu me parle, là, puis je vais prendre un petit 2 minutes de prière, ça, ce n'est pas un processus qu'on fait en 15 minutes sur le coin d'une table. Là. C'est un processus qu'on a besoin de créer un espace dans notre vie. On a besoin de créer une routine. On a besoin de se donner l'opportunité de le faire. Et donc, ça demande un investissement. Ça demande un courage et parfois, ça demande un accompagnement. Des fois, on vit des choses qui sont trop lourdes à porter pour nous-mêmes. Et c'est bien de dire, oui, moi, je veux dépendre de Dieu. Dieu me suffit, comme le chant dit, Dieu seul me suffit. Mais Dieu a pourvu avec l'Église aussi. Il nous a appelés à vivre en communauté. Et parfois, j'ai besoin de qu'est-ce que mon Seigneur a enseigné à un frère ou une sœur pour m'aider, moi, à grandir. J'ai besoin non seulement de m'humilier devant, parler avec un ami, aussi d'avoir cette même humilité-là qui est nécessaire pour aller peut-être parler avec un ami ou une amie dans l'Église, peut-être parler avec un pasteur. Et Dieu nous bénit à travers notre fidélité, à travers notre courage. Et Dieu peut faire une œuvre en nous. Quelle reconnaissance pour nous de dire « Dieu veut agir en moi. Dieu n'a pas fini avec moi. » La journée que je serai mort, je pourrais dire « Dieu a fini avec moi. » Mais avant ça, j'ai encore besoin d'apprendre. Et j'ai besoin d'apprendre, parfois de manière inusitée. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là où Dieu parle à travers un âne, à un prophète dans la Bible. Si Dieu peut parler à travers un âne, est-ce qu'il ne peut pas parler à travers quelqu'un de plus jeune que vous? Est-ce qu'il ne peut pas peut-être vous parler à travers quelqu'un peut-être du sexe opposé? Ou peu importe, là, ou quelqu'un qui a peut-être moins d'éducation que vous? Quelqu'un qui est plus nouveau dans la foi? Et là, je dis « etc., etc. » Dieu est capable de nous parler. Prions, Église, ensemble, pour que Dieu fasse son œuvre en nous, qui nous aide à aller plus loin, comme Habacuc, et à toujours garder ce désir en nos cœurs de le voir agir en nous et autour de nous. Éternel mon Dieu, merci parce que tu nous donnes une opportunité comme tes enfants. Ta parole nous dit de nous approcher du trône de grâce, de nous approcher dans ta présence. Tu nous donnes l'opportunité d'être complètement vrai avec toi. Tu ouvres cet espace-là où on peut dialoguer avec toi de choses qu'on ne comprend pas, de choses qui nous semblent incohérentes. Seigneur, tu nous invites à attendre pour te voir à l'œuvre. Et dans cette attente-là, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, mais plutôt tu parles à nos cœurs. Tu fais ton œuvre en nous. Seigneur, merci parce qu'on peut te voir à travers les yeux de la foi, agir en nous, agir parfois dans nos circonstances également. Et Seigneur, donne-nous le courage d'entrer dans ce processus-là, la discipline aussi de créer des espaces dans nos vies, que ce soit à travers des temps de prière prolongés, des temps de jeûne, des temps de retraite ou même des accompagnements pastoraux. Donne-nous le courage de créer ces espaces-là où on peut aller plus loin avec toi. Oui, Seigneur, nous le savons, tu as agi dans le passé, mais nous savons aussi que tu peux agir dans le présent. Nous savons que tu agis dans la vie d'autres personnes, mais nous savons que tu peux agir aussi dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te laisser la liberté d'agir. Viens et agis en nous, nous te prions, dans le puissant nom de Jésus. Amen.